Nous sommes donc maintenant au chapitre 5 du manuel, les possibilités thérapeutiques que nous offre l'hypnothérapie ou l'hypnose. Vous connaissez déjà un certain nombre de possibilités, les plus connues et qui sont aussi les plus demandées. Ce sont probablement celles, si vous exercez, que vous rencontrerez le plus rapidement. Nous allons y revenir ultérieurement, et c'est celles, parce qu'il faut bien aussi parler de chiffre d'affaires, ce sont celles qui seront une grosse partie de votre chiffre d'affaires, notamment l'arrêt du tabac, notamment tout ce qui touche au comportement alimentaire, les régimes, et quelques phobies comme, j'allais dire, les plus demandées. Une phobie n'est jamais demandée, mais du moins le traitement de cette phobie, qui est la phobie de l'avion. En l'occurrence, nous nous adressons à des gens, bien souvent, qui ont un revenu médian, un revenu moyen, des gens qui travaillent, de la classe moyenne, comme nous. Ce sont aussi des gens qui ont des loisirs, et parmi un de ces loisirs, il y a le voyage, et une grande partie de ces gens-là prennent l'avion, et certains, bien évidemment, ont malheureusement développé cette phobie de l'avion. Il y a aussi, toujours dans cette phobie de l'avion, quelques patients qui, eux, l'utilisent à titre professionnel, et on rencontre aussi des phobiques de l'avion qui utilisent fréquemment l'avion. Voilà, donc nous allons développer ça ultérieurement. Nous sommes dans le chapitre sur les possibilités thérapeutiques. Alors, la première des choses, il est important de ne pas laisser croire à vos patients, à vos clients, que, outre les possibilités d'ordre psychologique, toutes les problématiques d'ordre psychologique sur lesquelles nous allons travailler et que nous allons détailler tout de suite, il est important et il est explicitement recommandé de ne pas laisser croire à vos clients que vous pouvez les guérir de maladies somatiques, de maladies physiologiques. Tout d'abord parce que c'est faux, et ensuite, bien évidemment, parce que vous seriez face à un exercice illégal de la médecine. Vous seriez confronté à une possible accusation d'exercice illégal de la médecine. Alors, maintenant, ce propos, il faut le relativiser. Moi, personnellement, je crois qu'effectivement, l'hypnose ne doit pas travailler directement sur les maladies d'ordre physiologique. Nous pouvons toutefois, en hypnose, travailler sur des malades, par exemple des malades du cancer, non pas malheureusement pour guérir cette maladie du cancer, mais pour les aider à supporter leur environnement psychologique lié à cette maladie. La tristesse, la dépression, la souffrance, le regard des autres, la relation aux autres, la relation à eux-mêmes, et cela peut évidemment les aider à mieux vivre cette maladie, peut-être, nous n'en savons rien, à la surmonter. Dans tous les cas, il est évident, la science aujourd'hui ne peut pas le démontrer, le travail psychique du cerveau, de l'inconscient, ne peut surmonter les maladies physiques. Donc ne vous aventurez pas sur ce terrain-là, même si vos croyances personnelles sont contraires, ne vous y aventurez pas, ce serait un risque pour vous, un risque pour vos clients, un risque d'ordre psychologique, hein, puisque très certainement vous pourriez mettre en œuvre ces pratiques et avec un résultat zéro. Donc ne jouez pas aux apprentis sorciers, ça c'est fondamental. Alors qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité thérapeutique? Nous le savons. Avant de venir à ça, je voudrais développer un autre point également. Ça, c'est une règle absolue, comme la toute première que je viens de citer. Une autre règle absolue avec l'hypnothérapie et dans les possibilités thérapeutiques, de ne pas travailler avec des personnes qui présentent des pathologies mentales lourdes. Donc, ce qu'on appelle entre guillemets les fous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans la vox populi, ça veut dire quelque chose. Alors, on ne travaille pas avec des pathologies mentales lourdes. Maintenant, il est évident, alors pourquoi ? Dans l'absolu, on ne sait pas. Peut-être que ça pourrait aider des gens qui ont une pathologie mentale lourde. Et il est probable que certains hypnothérapeutes, ou voire même certaines cliniques dans certains pays à une époque, et là je reviens encore à l'Union soviétique et probablement aux États-Unis aussi, ils ont travaillé sur des gens, peut-être avec bénéfice, qui ont des pathologies mentales lourdes. Mais pourquoi nous, dans un exercice libéral, la plupart du temps, nous n'y travaillons pas, et nous nous l'interdisons si nous le décelons dans l'entretien avec l'un de nos clients? Parce que cette personne pourrait, sa crise, en fait, sa maladie pourrait être à ce moment-là potentialisée. Alors si, par exemple, elle est dans une phase de rémission de sa maladie, ça pourrait une nouvelle fois la potentialiser, une nouvelle fois l'exciter, et encore une fois, ce serait contre-productif. Maintenant, il est évident qu'il y a aussi des gens qui viennent vous voir, ils ne vous le diront pas, ils sont traités pour une pathologie mentale lourde, à ce moment-là, leur problématique est stabilisée et vous ne vous en rendrez peut-être pas compte. Vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Il est certain que la plupart des hypnothérapeutes ont eu affaire à des personnes connaissant des pathologies mentales, encore une fois, lourdes, avec lesquels nous ne travaillerions pas habituellement, et qui sont passés entre les mailles du filet, et peut-être, et très certainement, en leur apportant des bénéfices importants. Voilà. Donc on se l'interdit quand même. Si vous le décelez dans le discours, dans l'attitude de votre client pendant l'entretien préliminaire, évitez de prendre les risques. Maintenant, si celui-ci vous dit qu'effectivement il est atteint de telle ou telle pathologie, qu'elle est stabilisée parce qu'il suit un traitement médical, là, libre à vous finalement, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez aussi vous rapprocher de son médecin. La plupart des médecins maintenant sont ouverts, y compris les psychiatres, et surtout les psychiatres, dirais-je, sont ouverts à l'hypnose, sont ouverts à la discussion. Ça, c'est à vous de décider, encore une fois. Voilà, alors maintenant on en vient directement à ces traitements que nous pouvons mettre en œuvre, ces possibilités thérapeutiques que nous pouvons mettre en œuvre avec l'hypnose clinique. Donc je vous l'ai dit, hein, celles qui font un peu les stars du cabinet, ce sont l'arrêt du tabac, la modification des comportements alimentaires comme manger moins gras, manger moins sucré. Alors c'est pas uniquement pour faire un régime, hein, ça peut être un problème de diabète, ça peut être un problème de santé évident, hein. Et c'est souvent d'ailleurs un problème de santé très prégnant. Donc la modification au sens large des comportements alimentaires, l'hyperphagie, la boulimie, ça peut être le début ou le renforcement d'un régime aussi. Et puis, alors là, on a tout le champ des phobies, alors les phobies au sens large, hein, comme on l'a vu, une des stars également, la peur de l'avion. Alors ça peut être tout ce qui est plus ou moins lié à la claustrophobie, à l'enfermement, dans tous les cas, où la peur de une phobie quelconque, in fine, c'est toujours la peur de la mort. Donc, peur de l'ascenseur, ça peut être aussi la peur du regard des autres, l'érotophobie, la claustrophobie, l'hémotophobie, la peur de vomir, la phobie sociale, d'autres encore. Ensuite, pas forcément des phobies, mais de toute façon, tout ce qui est d'ordre émotionnel et psychologique. Le stress, la confiance en soi, c'est vraiment une des demandes les plus fréquentes. Et sachez que finalement, dans toutes les séances que moi, pour ma part, je pratique, il y a toujours un peu de tentative de renforcer la confiance en soi, parce que c'est un peu une colonne vertébrale du travail psychologique. Alors il peut y avoir encore, dans ces possibilités thérapeutiques, un travail sur la projection dans l'avenir, des gens qui n'ont plus le goût de vivre, qui ne sont pas vraiment en dépression, pas vraiment dans un stade de déprime plus ou moins important, mais qui ne savent plus vers quoi se projeter, même si, a priori, tout le reste dans leur environnement professionnel, personnel, va bien. Encore une fois, ni en dépression, ni en déprime, mais voilà, on ne sait plus vers quoi se projeter. Ça sera à vous de décortiquer tout cela et de faire une proposition, une stratégie à proposer à votre client. Ensuite, on travaille bien évidemment et malheureusement souvent sur les problématiques de sommeil. Ça, ce ne sont pas les problématiques les plus faciles à régler, si j'ose dire, ou à pondérer, ou à faire évoluer dans tous les cas. Alors que ce soit l'endormissement, que ce soit le réveil, ça, effectivement, vous vous rendrez compte que, bien évidemment, vous devez y répondre, y essayer d'y apporter le meilleur de vous-même. Vous aurez peut-être des succès importants, des succès certainement relatifs. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à régler. Il y a un autre, d'ailleurs, dans la catégorie des problématiques difficiles, sur lesquelles il est difficile d'obtenir des résultats très probants et statistiquement très importants, c'est l'alcoolisme. Voilà. Alors, autant on a d'excellents résultats sur l'arrêt du tabac, hein, entre 80 et 90% en une ou deux séances. On joue tout sur la première séance et en la deuxième séance. Moi, pour ma part, j'essaie, comme je le dis, de rattraper quelques-uns. Mais l'alcoolisme, là, pour le coup, les résultats sont extrêmement peu probants et à la limite, on est presque plus. On devrait peut-être plus proposer, bien sûr, des séances d'hypnose, par exemple, pour supprimer le geste. Pour écœurer face à tel ou tel alcool bien précis, notre sujet, et en parallèle proposer un accompagnement d'ordre analytique ou du moins d'écoute dans tous les cas. Vous voyez, il faudrait peut-être un peu mixer les deux pour obtenir des résultats, mais le résultat rien qu'avec rien qu'avec l'hypnose pour l'alcoolisme, c'est que ce soit un alcoolisme très léger, entre guillemets, hein, l'alcoolisme social, qui est quand même un alcoolisme, l'alcoolisme un peu plus profond, voilà, vous allez rencontrer des cas un peu particuliers. Bien évidemment, vous n'en faites pas part à votre patient, à votre client, vous n'allez pas lui dire, bah, c'est extrêmement difficile de guérir l'alcoolisme avec toutes les problématiques, avec toutes les thérapies, pardon. Vous le gardez pour vous, vous allez essayer de faire du mieux possible, quitte encore une fois à l'accompagner différemment dans un travail d'ordre analytique ou de relation d'aide. Vous pouvez aussi, ce n'est pas exclu, hein, de travailler avec des médecins sur certaines problématiques. Et donc par rapport à l'alcoolisme, il y a aussi le baclofène qui est aujourd'hui une solution intéressante. C'est pas la solution, mais c'est un confort très important. Donc vous vous renseignerez, vous verrez ce qu'est le baclofène, BACLOPHENE. Voilà, on revient à notre liste de possibilités thérapeutiques avec l'hypnothérapie. Et finalement, c'est aussi cette liste, je l'ai faite aussi en fonction des demandes des gens. C'est-à-dire que finalement, c'est de façon assez récurrente, ce sont les mêmes demandes qui reviennent. Alors, les troubles sexuels, évidemment. Alors là, il y a tout le panel des troubles sexuels, que ce soit l'éjaculation précoce chez les hommes, que ce soit la difficulté à avoir une érection, que ce soit la frigidité, que ce soit la fainéantise sexuelle, c'est-à-dire plus d'envie finalement, sans qu'il y ait de dysfonctionnement précis, et on n'a plus trop envie d'avoir des relations avec son conjoint ou sa conjointe. Et bien évidemment, cette notion de fainéantise sexuelle, c'est assez fréquent. L'amour est toujours là, le désir est là de façon aléatoire, mais une forme de fainéantise. Voilà. On le développera peut-être ultérieurement, vous vous renseignerez là-dessus, c'est très intéressant. Donc toujours dans les troubles sexuels, le manque de désir, et puis bien évidemment les traumatismes anciens. Alors là, ça peut être des agressions, des viols. Voilà. On continue notre liste de thérapies possibles, de possibilités thérapeutiques. Les traumatismes anciens eux-mêmes, alors dans l'enfance, l'adolescence, que ce soit des accidents, que ce soit des maladies, que ce soit des paroles reçues désagréables ou destructrices, dévastatrices, que ce soit des viols, encore une fois, que ce soit un contexte particulier de la vie de notre client, que ce soit. Bon. Ensuite, quelque chose qui touche à la confiance en soi, le regard des autres. Voilà. Le contrôle aussi de certaines émotions, par exemple le rougissement, la timidité. Ensuite, nous avons la possibilité de travailler sur la motivation, quel que soit le domaine. Alors il y a aussi des résultats assez intéressants sur la trichotillomanie, le fait de ça tirer les cheveux, de se tirer les sourcils, s'arracher les sourcils et parfois même les cils. Ce sont pas des et comme également se ronger les ongles. En fait, la trichotillomanie comme se ronger les ongles, ce sont même si les ongles c'est plus fréquent, la trichotillomanie, pardon, ce n'est pas non plus une demande anodine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rare. Bon, il y a des choses un peu plus classiques aussi, la peur des médecins, la peur de la blouse blanche, la peur du dentiste, voilà. Ne plus pouvoir consulter, ne plus vouloir se soigner tellement on a peur. Peur de quoi? Ben là, on arrive encore une fois à un stade anxieux, un peu phobique. Cette phobie, cette angoisse de la mort. Je préfère ne pas savoir et je préfère ne pas consulter et je me laisse mourir. Bon, il y a d'autres possibilités sur. Les acouphènes, par exemple, ou les taches dans les yeux, ça, vous pouvez essayer d'y travailler. C'est aléatoire comme résultat, mais c'est intéressant aussi. Quand je dis intéressant, c'est-à-dire que nous obtenons malgré tout des résultats alors que d'autres thérapies ou même la médecine n'obtiennent pas de résultats. Alors pourquoi est-ce que nous obtenons des résultats en la matière? Déjà, on l'a vu parce que c'est un travail naturel sur nous, mais c'est surtout un travail sur notre psychologie et que. Finalement, ces angoisses, ces acouphènes, ces taches qu'on voit parfois devant les yeux, ben c'est la plupart du temps une information qui vient de notre cerveau. Voilà, donc vous pouvez y travailler. Dans tous les cas, lorsque vous êtes en entretien avec votre patient, toujours. Voir s'il a déjà, d'ores et déjà, entrepris des démarches médicales pour savoir si le problème physique qu'il connaît, par exemple, ça peut être des évanouissements. Hein. Aujourd'hui, à Paris, par exemple, dans le métro, tous les jours, dans un compartiment, on verra quelqu'un qui va s'évanouir. Alors, les médecins, bien souvent, on mettra ça sur le compte des malaises vagaux. Malaise vagal qui veut. Tout dire et rien dire à la fois, le médecin n'a pas de réponse, d'un point de vue neurologique tout va bien, d'un point de vue cardiaque tout va bien. Voilà. Donc ce que j'allais dire, c'est que avec votre patient, avec votre client, vous allez toujours éluder, non pas éluder, pardon, mais vérifier qu'il a pour sa part bien validé auprès des médecins si. La raison pour laquelle il vous amène, il vient vous voir, hein, s'il y a un symptôme d'ordre physique, hein, bien évidemment. Si pour cette raison, la médecine a une réponse, à savoir en l'occurrence ben que non, justement, il n'y a pas de réponse, et donc c'est probablement d'ordre psychologique. D'ailleurs, bien souvent, beaucoup de médecins, après avoir fait toute une batterie d'examens, proposent à vos patients. Bah, d'aller voir un psychothérapeute. Ça, c'est extrêmement fréquent. Voilà, donc il y a bien évidemment toutes autres possibilités parce qu'il y aura des demandes. Mais là, j'ai fait un peu le panel de ce qu'on reçoit la plupart du temps en cabinet. Alors maintenant. On va conclure ce chapitre par d'autres demandes moins fréquentes et qui existent. Alors, pour ma part, je ne pratique pas. Alors, il y a la régression d'âge. Alors, qu'est-ce que c'est que la régression d'âge? Ben, c'est essayer de revenir en arrière, dans le passé, quel que soit l'âge, pour se retrouver dans une situation particulière ou retrouver un souvenir particulier. Alors, situation particulière qui a pu être un traumatisme ou un souvenir particulier qui a pu être aussi un traumatisme, une agression, un viol, etc. Bon, alors pourquoi moi je ne le pratique pas? Je l'ai pratiqué il y a très longtemps. Parce que je pense, et je ne suis pas le seul, hein, bien évidemment, et comme le dit la théorie psychanalytique freudienne, que notre inconscient peut très facilement s'inventer ce que l'on appelle des souvenirs écrans. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes persuadé d'avoir des bribes de souvenirs, hein, des ressentis aussi, l'envie d'aller essayer de retrouver, peut-être avec la technique hypnothérapeutique et cette fameuse régression d'âge, des images particulières, et finalement, tout cela va renforcer des souvenirs qui n'ont peut-être jamais eu lieu, probablement jamais eu lieu, des événements qui n'ont jamais eu lieu. Et voilà, le danger, c'est-à-dire se reprojeter dans le passé qui n'a jamais existé avec cette technique de régression d'âge, revisiter des scènes qui n'ont jamais eu lieu, les renforcer, revenir avec, et finalement de quelque chose qui était un souvenir diffus mais pas une souffrance extrême, en faire une souffrance en revenant à l'état d'éveil. Donc ça, c'est le premier danger de la régression d'âge. Alors aux États-Unis, il y a peut-être une vingtaine d'années, la régression, la recherche de souvenirs, la régression d'âge, la recherche de souvenirs a été utilisée dans les enquêtes, dans certaines enquêtes policières, dans certains États. Et on s'est rendu compte, suite à des erreurs judiciaires, que voilà, les souvenirs écrans étaient tellement forts que bien souvent, c'était totalement erroné et que l'enquête était erronée. Donc ça, on a laissé tomber, c'est pas validé scientifiquement. Bien évidemment, vous me direz, comme dans tout ce qui touche le cerveau et l'inconscient. D'accord. Mais là, c'est assez fréquent. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Souvent, c'est pas rare, des jeunes femmes ou des femmes ont le sentiment, s'adressent à moi parce qu'elles me disent, voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir été agressée, sexuellement, dans mon enfance, dans ma petite enfance. J'ai des souvenirs comme ça, très diffus. Voilà, la première question que je leur pose, c'est, et ensuite dans l'entretien, tout l'entretien est un peu orienté vers là, c'est de savoir si, est-ce qu'elles en souffrent, finalement? Alors, celles qui en souffrent, j'essaie de les faire travailler sur autre chose, sur ça, en hypnose, mais pas en revenant sur ce souvenir écran en utilisant cette technique de la régression d'âge. Et celles qui n'en souffrent pas, ben j'essaie surtout, on peut les accompagner avec quelques séances, hein, mais j'essaie surtout de leur faire comprendre que mieux vaut rester avec des souvenirs qui sont peut-être à un moment donné de leur vie exacerbés par un environnement social, professionnel, familial, et qui vont disparaître, que essayer de faire des recherches dans sa mémoire avec cette technique de la régression d'âge, revenir avec des souvenirs qui n'ont jamais eu lieu, et que là, effectivement, excusez-moi le terme, ça risque vraiment de pourrir leur vie émotionnelle et psychique. Voilà, maintenant, sachez que ces demandes existent, pardon. Vous avez un cabinet, vous aurez un cabinet si vous décidez de pratiquer. Libre à vous, là, de pratiquer ou non. Vous vous renseignerez sur la technique de régression d'âge. C'est une technique extrêmement simple. On peut utiliser ce qu'on appelle une technique qui s'appelle la technique du calendrier, où on fait revenir les gens comme ça en arrière à telle ou telle date de leur existence. Ça peut être des événements particuliers dont ils se souviennent bien, et revenir en arrière et leur faire développer jusqu'au moment où ils arrivent, et ensuite le chemin inverse. Voilà. Alors il y a aussi le phénomène des gens, des clients, qui eux veulent travailler sur ou essayer de connaître leur vie antérieure. Voilà, on n'est plus dans la régression d'âge, à la vie antérieure. Des gens qui pensent à avoir eu plusieurs vies, avoir été réincarné, etc. Bon, alors là, moi, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Je ne pratique pas, je ne connais pas. Je suis désolé, je ne suis pas très métaphysique, pas très religieux non plus. Je pense que l'hypnose est quelque chose de tout à fait, même si on ne connaît ni les tenants et les aboutissants, on n'en connaît ni les aboutissants ni les tenants, quelque chose de très cartésien. Et je ne m'amuse pas à travailler avec les vies antérieures. Là, vous, en fonction de vos croyances, en fonction de vos désirs, de votre clientèle, vous faites ce que vous voulez. Et on va finir avec ce que j'appelle les demandes spécifiques, qui ne sont pas d'ordre thérapeutique, qui ne sont pas retrouver des souvenirs anciens, qui ne sont pas non plus des vies antérieures, mais où, en l'occurrence, là, on va utiliser la technique du calendrier. Et on va utiliser... Alors, pourquoi on va utiliser cette technique du calendrier et finalement cette technique de la régression d'âge? Parce que les demandes sont très spécifiques et pas d'ordre thérapeutique. C'est-à-dire que si la personne qui vient vous voir vous demande cela... la plupart du temps, elle va rechercher quelque chose, un objet qu'elle a perdu. Donc, qu'elle le trouve ou qu'elle ne le trouve pas, l'incidence émotionnelle n'est pas fondamentale. Alors, bien évidemment, si elle a perdu 15 millions d'euros, quelque part dans, qui était dans une valise, là, oui. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On est dans le concret, on n'est pas dans la... le bouleversement du dynamisme émotionnel que l'inconscient pourrait mettre en œuvre et qui pourrait apporter des souffrances ou des blocages. Donc voilà, donc ces demandes spécifiques que vous rencontrerez pas fréquemment, mais qu'il faut utiliser ne serait-ce qu'encore une fois parce que vous avez un chiffre d'affaires à tenir si vous ouvrez votre cabinet, des gens qui vont vous demander, je vais vous citer deux exemples moi, que j'ai connus très récemment. J'en ai eu d'autres, mais là, les plus récents que j'ai en tête, ce sont des gens qui ont perdu des objets. Donc, très récemment, j'ai eu un jeune homme, je peux vous le dire, hein, c'est un petit voyou, un petit ou un grand voyou, j'en sais rien. Bon, moi, ce qu'il me racontait de sa vie, maintenant, attention, on n'est jamais avec eux réellement. Hein, on a aussi affaire parfois à des mythomanes. Vous gardez votre détachement, vous utilisez ce que vous avez besoin d'utiliser pour votre technique. Et c'est suffisant. Donc voilà, ce jeune voyou avait perdu une de ses nationalités, c'est-à-dire qu'il avait de multiples nationalités, de multiples vrais faux passeports et vraies fausses pièces d'identité. Donc là, effectivement, c'était assez facile de travailler là-dessus. Et le second exemple que je vais vous donner, c'est un bijoutier qui avait perdu un diamant. Bon... il n'a pas retrouvé son diamant. Par contre, il a retrouvé les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Voilà, ça l'a aidé. Et visiblement, ça l'a aussi aidé à mettre en œuvre des procédures, des process ultérieurs pour mieux sécuriser son atelier. Et le voyou, lui, il a retrouvé son passeport. Pas tout de suite, ultérieurement. Je ne sais pas si c'était grâce à l'hypnose ou pas. Bon, il l'a retrouvé. Bon, ça, ce sont des demandes sur lesquelles vous pouvez travailler avec cette technique de régression d'âge, et notamment la technique du calendrier. Et ça va faire l'objet, la technique du calendrier, l'objet du podcast qui va suivre ce cours. Donc, voilà les différentes possibilités thérapeutiques, hein, les possibilités classiques, arrêt du tabac, comportement alimentaire, phobies diverses et variées, stress, confiance en soi, projection dans l'avenir, sommeil, troubles sexuels, traumas anciens, regard des autres, motivation, timidité, peur du dentiste, trichotillomanie. J'ai aussi oublié dire non. C'est-à-dire que c'est une demande assez fréquente. Je n'arrive pas à dire non à ma femme, à mon mari, à mon patron, à mes amis, etc. Voilà. Les demandes classiques qui sont bien souvent celles que vous rencontrerez. Les demandes sur... la régression d'âge, sur lesquelles, pour ma part, je ne travaille pas, hein, les demandes sur les traumatismes anciens, les agressions ou les viols. Les demandes sur la vie antérieure que je ne travaille pas, parce que, encore une fois, ce n'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire. Mais libre à vous, encore une fois, de travailler sur tout cela. Il n'y a pas de... Et puis les demandes spécifiques, les pertes d'objets, ce genre de choses, en conservant toujours à l'esprit de ne jamais, ou dans la mesure du possible, mais vous êtes libre, hein, vous êtes des adultes majeurs et vaccinés, de ne jamais travailler sur des personnes qui semblent présenter des pathologies mentales lourdes, non stabilisées. Voilà, donc prochain podcast. Je veux conclure différemment. Je veux conclure en disant donc ne jamais travailler sur des personnes qui présentent des pathologies mentales lourdes non stabilisées. Ne jamais faire croire et laisser croire à ces patients que l'on peut régler des problèmes, des maladies physiques. Voilà. Donc, prochain podcast, la technique du calendrier que vous pouvez utiliser, notamment pour la perte des objets. Et ça, ça peut être extrêmement efficace, spectaculaire et très intéressant.